you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pino, Camille André, Coppelia Menardi. Prise de son assurée ce soir par Anthony Thomasson, réalisation Thomas Beau et autour de moi. Ce soir, Mathilde Serret, Hugo Cassavetti, Philippe Azori pour parler ensemble de Sainte Victoire de Clara Luciani, Bible of Love de Snoop Dogg et puis l'exposition Al Musica, voix et musique du monde arabe à la Philharmonie de Paris. Boris Pino est également avec nous pour donner à entendre vos commentaires via Facebook ou Twitter et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir des DVD de Titicat Follies de Frédéric Wiseman qui est sorti chez Blackout. Nous ouvrons cette émission musique avec Clara Luciani, pas vraiment une nouvelle venue mais qui sort son premier album intitulé Sainte Victoire dont elle est l'auteur et compositrice. Elle avait été remarquée avec un premier EP Monstre d'amour sorti il y a tout juste un an, mais avant elle avait collaboré avec La Femme, plus rapidement aussi avec Nouvelle Vague, Raphaël, Benjamin Biolay ou encore Nekfeu. Elle avait aussi lancé un duo Hologramme où elle chantait en anglais, cette fois c'est le français qu'elle choisit pour sa carrière solo. On écoute un extrait de cet album, Drôle d'époque.
Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu marches même pas droit. T'as l'allure de ton père, les cheveux en arrière. T'as pas l'air, t'as pas l'air, t'as pas l'air d'une femme. D'une femme. Où sont passés tes seins? Ta combrure de félin. Tantôt mère nourricière, tantôt putain vulgaire. Conduis-toi, conduis-toi, conduis-toi comme une femme. Comme une femme. Comme une femme. Moi, j'ai pas l'étoffe, pas les épaules, pas les épaules. Pour être une femme de mon âme. Tu voudrais voir en moi ta mère et ta sauveuse. Que je porte ma croix en restant amoureuse. Mais je sais pas, je sais pas, je sais pas être cette femme. Cette femme. Être cette femme. Moi, j'ai pas le temps. Pas les épaules, pas les épaules. Pour être une femme de mon époque, on vit vraiment une drôle d'époque. Mmh.
drôle d'époque. Clara Luciani, extrait de cet album intitulé Sainte Victoire. J'assume pleinement le choix de ce morceau. Je m'en expliquerai tout à l'heure qui a un peu surpris Philippe Azoury. Ben ouais, j'ai choisi ce morceau. Voilà, tout seul, comme un grand. Hugo Cassavetti, tiens, va commencer à nous parler de Clara Luciani.
Alors, bah c'est un bon choix, je trouve.
Merci.
Mais non, parce qu'en réécoutant là... Hugo
Cassavetti nous dit
que...
ce qu'il pense. Alors là,
toujours.
Vous le connaissez quand même.
Au-delà. Non, c'est un bon choix parce que c'est le... Clara Luciani, j'ai dû la voir en concert il y a 1 ou 2 ans où on la voyait toute seule avec sa guitare. Et moi, ce qui m'a un peu surpris au début en recevant l'album, c'est tous ces arrangements qu'on... Voilà, on peut penser... voilà, l'année dernière, il y a eu Fishback, il y a une petite parenté avec ça, qui est... ce qui est un peu décevant, c'est que je trouve que c'est une artiste voilà, super intéressante dans ses textes, dans sa voix, dans ce qu'elle fait. Et ce qui est toujours un peu décevant, c'est pourquoi toutes ces femmes qui quand même proposent quelque chose d'un peu nouveau, que ce soit voilà, leur discussion autant sur l'identité, mais voilà, sur leur statut de femme, reviennent souvent à des musiques d'une banalité effroyante, et c'est le cas de la moitié...
Effroyante.
On va le garder celui-là.
Non, ce retour à cette musique 80s, d'ailleurs, qui est en décalage avec
plutôt
un propos...
années 80, là, plutôt que 80s. Hein.
Ouais.
Disons-le. Non, mais c'est vrai, ça compte. C'est la variété française qui est vraiment...
Même
ici,
le premier titre, le titre assez emblématique, La Grenade, avec un texte qui est, voilà, cette grenade, qu'elle est, voilà, où elle apostrophe l'auditeur, elle se pose en femme, oui, qui veut plus laisser faire, qu'il y en a qui a morflé, mais en même temps, comment ne pas venir juste dur et devenir juste dur, et tout ça sur un fond de musique qui est pas désagréable, mais en même temps on n'en peut plus de ce retour aux années 80, et parce qu'il y a de plus imaginatif. Et là, il y a quelques morceaux, on retrouve ce qu'elle faisait quand elle était toute seule, où elle était juste un peu seule avec une guitare, où là on se dit, tiens, voilà, pourquoi est-ce qu'il va enfin y avoir une femme qui pourrait se positionner, qui sont dans la lignée de toutes ces anglo-saxonnes qui vont de Joni Mitchell à Pete Gervais en passant par Patti Smith, qui ont réussi très tôt à trouver le langage musical qui correspondait à leurs propos, quoi, qui portait leurs propos plutôt qu'un langage musical qui le dessert presque, quoi, qui le banalise. Et je trouve que... j'ai parlé juste de Fishback, parce que je pense que Fishback, c'est vraiment le problème de Fishback. Je trouve que c'est une fille qui a une personnalité incroyable quand on la voit, un physique et un propos, et c'est tué en concert, en plus, par cette musique, on a l'impression de voir Rose Lawrence, quoi.
Africa, j'ai envie de toi, j'ai envie de danser.
Ouais, mais c'est un peu ça. Comme toi.
Et Clara Luciani, c'est curieux, parce qu'elle... Ils n'arrivent pas à sortir de ça. Et en même temps, il y a assez... Et ce qui la rattrape, je trouve, c'est ce côté quelqu'un d'autre. On aurait pu parler d'elle, d'un très bon album de Françoise Hardy. Mmh. Et je trouve que quand ça marche, elle retrouve ce que Françoise Hardy...
Elle a une voix quand même tellement plus ample.
Oui, mais je trouve
riche,
que l'ambiance
profonde,
qu'elle
Clara
dégage...
Luciani.
Elle arrive à chanter une forme de...
Non, j'entends bien que c'est pas...
De mélancolie.
C'est pas une critique négative.
Justement, c'est jamais de la causticité ou du cynisme. Il y a quelque chose, un constat de à la fois de défaite et justement de pas se laisser abattre par cette défaite et d'avancer, de pas être dans un féminisme caricatural, de dire voilà comment on continue avec ça. Et elle finit voilà sur ça avec Sainte Victoire, qui est ce texte un peu déclamé, qui est...
Spoken word.
Alors, c'est curieux, parce qu'un autre disque dont on aurait dû parler, c'est le disque de Hills, dans un tout autre registre, qui ne chante que ça depuis 25 ans, mais du point de vue d'un homme. C'est comment, tout le temps, à chaque disque, se construire, alors que lui, il a connu tous les malheurs du monde. Sauf que là, c'est d'un point de vue d'une femme qui a un propos qui est maintenant très présent dans la musique actuellement, qui correspond à l'ère du temps, et c'est pas inintéressant. C'est très différent de ce que chantait, on va dire, Véronique Sanson, qui avait ce statut dans les années 70. C'est comment une femme qui se bat, mais qui est toujours, dans le fond, victime de son romantisme. et Clara Luciani, ce disque, Sainte Victoire, s'écoute bien. J'aimerais juste qu'il y ait un peu moins de toutes ces, non pas dérapages, quoi, mais cette dérive. En plus, c'est elle qui compose, mais de faire appel aux Shoes, à Yuxek et toute cette clique de remixeurs à 2 balles, quoi.
Mathilde Serrel.
Les remixeurs à 2 balles. Non, il y a aussi, ce sont des musiciens, puisque Yuxek, on va le retrouver un coup à la basse. Il va faire de la batterie sur certains titres. Elle s'est entourée comme ça. Moi, je trouve que, effectivement, le travail aussi de Benjamin Lebeau de The Shoes et de Ambroise Willaume de Sage, je trouve pas inintéressant. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'au moment de l'autoportrait, Sainte Victoire à la fin, il y a du spoken word et il y a aussi une texture moderne qui apparaît par ce qu'ils ont proposé. Je sais pas si on gagnerait forcément à voir les choses uniquement à la guitare sèche. Après, ce qui est vrai, c'est que la qualité première, c'est et la voix et les textes. Donc, je peux comprendre qu'on soit inquiet sur l'idée de noyer ça dans des arrangements. On peut quand même dire que ce disque à la force de proposer différentes nuances. Là où justement avec une Fishback ou peut-être parfois avec une Juliette Armanet, on a eu quelque chose qui est à peu près sur la même tonalité. On a l'impression qu'on fait des variations à l'infini. Alors que là, il y a beaucoup de choses différentes. Donc effectivement, beaucoup de dépanchements. C'est vrai qu'elle parle à son cœur comme Françoise Hardy parlait à son cœur. Elle a vraiment cette écriture-là. Et en même temps, des choses plus modernes comme La Grenade ou une reprise de Métronomie en français. La Baie, que je trouve... Alors vous allez me dire, oui voilà, peut-être que ça fait plaisir à trois branchés au café qui écoutent Métronomie, mais enfin, il n'y en a pas que trois. Et elle est assez maligne, donc finalement, elle est vraiment dans son temps. Sur le texte, ce qui m'a beaucoup frappé avec ce titre Drôle d'époque, est décidément un très bon choix d'Arnaud Laporte.
C'est qu'on Philippe a. Philippe Azoré rigole, hein, toujours. Hein.
On a beaucoup parlé de
vous savez,
des ravages de la virilité masculine, des codes de la virilité, de cette nécessité d'être un homme fort et de ce que ça pouvait faire comme mal à un certain nombre d'hommes aussi. Et je trouve que là, l'idée de ce que c'est que être une femme forte, être obligée d'être cette femme de cette époque qui a les épaules, qui est engagée, qui peut combattre les stéréotypes, qui peut mener toutes les vies en même temps, que ça, ce soit une puissance écrasante et qu'on n'ait pas forcément envie de pouvoir l'embrasser, je trouve que c'était important de montrer que le code de la féminité, c'est aussi parfois un code de surpuissance et c'est pas forcément quelque chose qui est dit dans tous les textes de ces chanteuses actuelles.
Et la suite pour plus tard, hein, parce qu'il ne s'agit pas de délivrer une chronique, hein, on n'est pas sûr. Le matin, vous savez qu'il est 19h15, Mathilde Serrel. Philippe Azoury qui rigole et
je me lève.
Et qui se lève et qui tutoie toujours ses camarades.
Oui, c'est vrai.
Alors.
J'ai eu un problème de storytelling sur certains
de racontage d'histoire. Je traduis toujours le Philippe Azoury en français.
Oui, cependant, il est complètement international.
Non.
Donc j'ai un problème de. Oui.
De récit.
J'ai un peu traîné, disons, avant d'écouter cet album, qui est pourtant autour de moi, la rédaction de Grazia, notamment Pascaline Potvin. Beaucoup de gens connaissent ici parce qu'elle vient souvent, qu'elle avait vraiment fait son album de chevet, qui me persuadait tous les jours au bureau de
me dire, heureusement aussi.
Absolument que tu écoutes ça, il faut absolument que tu écoutes ça, il faut absolument que tu écoutes ça. Et disons que l'addition, très très belle fille, il faut avouer que la fille est splendide, apparemment, elle fait 1m76, enfin, une sorte de mannequin, comme ça, magnifique.
Lucas avait dit, elle a l'air convaincue.
C'était Francis Lalanne quand j'ai reçu le disque.
D'accord.
Ça commence très bien. Je pense qu'il fait trop soleil aujourd'hui pour regarder la radio. Donc, en fait, il y a l'addition, très très belle fille. Plus ou moins bien entouré. Alors, une fois de plus, Hugo va hurler, mais bon, disons de Yuxek à la femme, enfin voilà, enfin, disons avec arrivant avec une reprise effectivement de Métronomie, tout ça avec enrobé, voilà, d'un féminisme plus l'histoire d'amour qui a provoqué cet album et finalement qui a été un sursaut chez elle et qui lui a permis donc d'arriver à ces textes-là. Sur le papier, n'étant pas un fou de musique française, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est très bien, c'est super que ça existe, sans doute, c'est sans doute pas pour moi. Ça fera à la limite trois fêtes en appart, et dans 6 mois, on aura honte de l'avoir écouté. Et puis quand même, bon, je m'y suis mis, et je dois avouer que je n'écoute plus que ça. Je trouve ça magnifique. C'est-à-dire que là, exactement tout ce qui était sur le papier qui ressemblait à des ingrédients, à un dosage, peu ou prou, voilà, dans l'air du temps, est transcendé par la qualité d'écriture, par cette voix que je ne m'explique pas. Donc effectivement, je sais pas si c'est la.
On entend bien dans Drôle d'époque, vous trouvez
oui,
pas,
on
Philippe
entend super bien. Dans Les Fleurs, on est encore mieux.
Je suis pas sûr, moi. Mais bon.
Dans Drôle d'époque, je trouve que, enfin, j'adore PJ Harvey, mais le morceau est tellement dans. Mais Drôle d'époque est beau lorsqu'il arrive à sa. Je crois qu'il est 7e dans qui compte 11 morceaux. Le disque est très très bien construit. En plus, je trouve que là-dessus, elle a vraiment vraiment maintenu la séquence. Et lorsqu'il arrive, effectivement, il est poignant. Séparé comme ça, balancé à des gens qui l'auraient jamais entendu, je suis pas sûr que ce soit le choix de. C'est pas ça que je. Mais non, mais le réel en fait, voilà, du disque, c'est que je suis estomaqué par ce souffle, par cette voix absolument incroyable, par la qualité des textes, avec des fois des choses qui sont les plus casse-gueule du monde. Enfin, je veux dire, un morceau comme Les Fleurs, c'est pour ça que moi j'étais assez attaché à celui-ci pour qu'il soit diffusé. Enfin, c'est quand même une fille qui va mal et qui regarde Les Fleurs. Moi, en tant que thématique, ça m'intéresse pas des masses. Et pourtant, elle dit, voilà, je pense aux fleurs qui sont parfaites et qui n'ont pas d'autre rôle que de l'être, et ça me tue. Voilà. Donc, je sais parce que je m'y suis mis tard et que je m'excuse auprès de mes collègues de travail, Pascaline, si tu m'écoutes, mais elle le sait d'ailleurs. Enfin, voilà, je ne lui parle plus que de Clara Luciani. Je suis complètement amoureux. Je pars à la Sainte Victoire, la rose à la main. Enfin, je sais pas.
Voilà, avec un bouquet de fleurs.
Et je comprends quand Hugo disait que ça le ramenait à quelque chose de la variété française, qui est effectivement une tendance dans la production française aujourd'hui qui me fait mais horreur. C'est-à-dire, voir des anciens branchés 20 ans de rêve culture pour en arriver à chanter Michel Fugain, pour moi, c'est l'enfer. Et ça, je ne l'entends pas dans ce disque-là.
Contrairement à vous, moi, je trouve que le disque est extrêmement mal construit parce qu'il commence justement par deux morceaux, La Grenade et La Baie, moi, qui m'ont fait craindre ce que disait.
Oui, sur cette espèce de disco chantant,
variété française années 80, pas de disco chantant.
Ah, moi, je trouve
ça. Vraiment, peut-être que si ça n'avait pas été pour l'émission, j'aurais pas poursuivi et ça aurait été extrêmement dommage. Parce que je suis comme vous, hein, je n'écoute plus que ça. Mais quelle idée quand même de commencer par ces morceaux. Il y a On ne meurt pas d'amour, qui est le troisième titre, qui commence à faire pencher la balance du bon côté, sous influence un peu Young Marble Giants,
quelque chose d'assez
minimal, qui est très beau. Et alors, et puis la voix qui commence vraiment à se faire entendre. Et alors, il y a ce morceau Eddie, dont on aurait pu entendre l'intro, on dirait l'intro de Black Star de David Bowie, c'est extrêmement troublant, avec ce sax. Il y a une très belle utilisation du saxophone.
C'était mon choix, celui-là.
Et ben voilà, mais ça a failli être celui-là. Donc ça débute comme Black Star et puis ça se poursuit en effet côté Françoise Hardy. Mais alors, autre bizarrerie quand même dans la construction, il y a quand même ces deux slows, on va dire ça comme ça, qui s'enchaînent, Drôle d'époque et Monstre d'amour. Mais là, évidemment, on peut enfin goûter les paroles. Et après ces deux slows, il y a deux morceaux lents, ce qui est quand même donc toujours un choix un peu curieux. Et puis on finit par Sainte Victoire, dont on a parlé, du spoken word. Donc je trouve que la construction est assez étrange pour qui voudrait aller vite. Moi, vraiment, les deux premiers morceaux, même s'ils sont efficaces, c'est vraiment pas du tout ce que j'ai envie d'écouter aujourd'hui.
Ouais, moi, vraiment, c'est
alors qu'il y a un univers qui s'ouvre.
Je trouve assez réussi dans cette catégorie-là.
Genre, c'est le plus comme le disait Hugo, on en a trop entendu.
Et peut-être parce que j'en écoute pas assez.
Ah, ben vous avez de la chance alors.
Oui, mais peut-être qu'ils sont mieux réussis que d'autres.
Ils sont mieux que ceux que je n'avais pas écoutés. C'est pour ça que je ne les avais pas écoutés.
La grenade, une fois qu'on a le contexte et on écoute avec les paroles, ça passe.
C'est
la baie, c'est un peu du problème. Mais j'ai un problème avec métronomie aussi. Donc.
Voilà, c'est ça. Si on n'aimait pas métronomie au départ, on n'était pas forcément sensible.
J'étais pas fou de ça. L'idée de recréer le morceau quasiment en improvisant les paroles à partir de ce qu'elle croyait avoir compris, mais manifestement elle ne parle pas très très bien anglais, Clara Luciani, je trouve ça vachement bien pour le coup. Ça me réconcilie avec le morceau, donc j'ai l'impression que c'est presque une sorte de divagation autour de ce truc qu'on a effectivement, enfin qui, alors là voilà, quand je pensais La Fête en appart qui nous en fait 6 mois, et puis au bout d'un an on se dit mon Dieu, mais les gens écoutaient ça vraiment, je pensais réellement à ce morceau là enfin voilà, Métronomie, c'était purement ça.
Avant de poursuivre, Boris Pinot, des commentaires sur les réseaux sociaux?
Oui, sur Twitter, Thibune dit de Sainte Victoire qu'il est un album assurément féministe, parsemé de coups d'éclat, et un mot de Girls Don't Cry sur le titre La Grenade, qui donne selon lui le ton de l'album, une déclaration de force féminine sur fond de basse et de batterie déterminée.
Bon, alors, moi, je viens de dire le contraire, mais comme ça les différents avis s'expriment. Mathilde Serren ?
Moi je trouve qu'il y a beaucoup de virilité en fait dans ce disque. Je trouve qu'il y a des lignes de basse en effet de bonhomme, épaisses comme des troncs, et ça c'est extrêmement agréable. Cette idée d'animal, non mais c'est vrai, déguisée en madone, c'est comme ça qu'elle se présente dès le départ. Finalement, ça nous donne quand même l'indice inaugural. C'est pas si mal construit, puisque ça se boucle avec l'autoportrait final. Donc on a presque comme ça deux miroirs qui sont proposés. Et puis après, plusieurs facettes. Ça peut se concevoir comme ça, si on imagine le schéma du disque. Et puis, elle est cruelle. Elle est agressive. Enfin, il y a presque de la testostérone. Moi, je trouve, justement, dans cet album féministe, on parlait avec Hugo tout à l'heure de cette idée d'haranguer l'auditeur dans Grenade. Et toi, qu'est-ce que tu crois? Je suis aussi vorace que toi. Et la cruauté de la chanson. La cruauté de la chanson d'Eddie. Eddie, moi j'ai l'impression que c'est un peu comme une belle fille, quoi. Il faudrait pas qu'elle ouvre la bouche. C'est souvent comme ça que ça se raconte. Là, on est content d'avoir le point de vue inverse. Eddie, bah, il est joli garçon, mais il faudrait juste qu'il la bouche, en fait. Parce que c'est pas possible. Et moi, je la trouve aussi viriliste que féministe et justement pas là où on l'attendrait et pas là où on attend un certain nombre de filles qui ont fait des variations sur ces choses-là. C'est vrai que Le Cavalier Seul de Juliette Armanet, dont elle a fait la première partie, c'est déjà cette audace, c'est déjà ce renversement de la variété française qui se raconte du point de vue masculin depuis des années, et tout d'un coup on a l'autre côté de la groupie du pianiste par exemple, et dans Star Triste de Juliette Armanet ou d'autres titres comme ça. Mais on n'allait pas assez loin. Je trouve qu'avec Clara Luciani, justement, avec avec ce lyrisme et avec ce virilisme, on va plus loin que d'autres contemporaines. Et c'est peut-être beaucoup plus fort. Et c'est elle, peut-être même, qui devrait être précédée de Juliette Armanet à l'avenir.
Donc elle aurait dû l'appeler Clara.
Personnellement, je suis d'accord.
C'est Clara, elle n'est pas très chic type, c'est ça?
Oui, Hugo Cassavetti. Voilà. Quelle magnifique blague. Je crois que là, on a atteint une sorte de sommet dans l'analyse musicale.
C'est un peu le Kersauzon.
Bon, ça commence à s'insulter. Autre chose à ajouter, Hugo Cassavetti, pour votre défense, après cette saillie déplorable?
Non, je vais rentrer, je vais dans une semaine, je viendrai, je n'écoute plus que ça.
C'était pas un si mauvais film, que ça. C'était pas un si mauvais film.
Carré chic type.
Un charme.
Bon, écoutez, ça fait deux affirmations un peu étranges à la suite. Mais bon, c'est si vous le dites. Bon, en tout cas, moi, j'ai très envie d'aller voir Clara Luciani en concert. Parce que est-ce que j'ai bien dit que j'aime énormément ce disque?
Je crois que ça s'est perçu, oui.
Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une artiste française.
Nous irons Arnaud main dans la main.
Si vous voulez, avec joie. Absolument. Alors on pourra aller le 20 avril, c'est pas passé, non, c'est le festival Mythos à Rennes, le 28 au Printemps de Bourges, le 19 mai au festival Art Rock à Saint-Brieuc, le 17 juin au festival La Magnifique Society à Reims, 24 juin au festival Solidaires à Paris, 7 juillet au festival Days Off à Paris, le 13 au Francofolie de La Rochelle. Donc ça va pas du tout parce que j'aime pas les festivals, moi je préfère la petite salle.
Donc, je crois que ce sera à Cannes aussi le 18, non, bien plus tôt.
Pour la fête que vous organisez?
Non, j'ai vu une annonce.
Bon, ouais.
Pas dans l'appartement.
D'accord. Grazia. Bon, vous irez en éclaireur pour moi. Et puis je rappelle que l'album s'appelle Sainte Victoire, qu'il est signé complètement Clara Luciani. À suivre dans la dispute, Snoop Dogg et Almusica.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Alors je vous laisse expliquer à Snoop Dogg pourquoi vous riez quand on prononce son nom. Ça, vous verrez ça directement avec lui. Mais en tout cas, on poursuit cette dispute musique avec ce curieux retour. Enfin, retour, il est toujours dans le paysage. Ça fait même un quart de siècle depuis le premier album, 1993. Il était encore un peu protégé par Dr. Dre à l'époque. Le premier album, c'était 1 million d'exemplaires quand même. Et depuis, j'ai lu qu'il avait vendu 40 millions de disques dans le monde. En 25 ans, c'est pas si mal. Vous vous souvenez de son virage reggae en 2012?
Snoop Lion. Le Rastafari.
Voilà. Et maintenant, c'est Bible of Love. Bon, la Bible de l'amour, pour vraiment ceux qui comprennent très très peu l'anglais. Disque, on aura compris, de gospel, avec énormément d'invités. Alors là, c'est vous qui avez choisi. Voices of Praise.
See, a lot of you brothers and sisters are so busy pointing a finger at someone else instead of looking in the mirror at your own self.
I see you playing games with that smile on your face.
I see you playing games with that smile on your face.
It takes a dedicated person to run this race.
You got to be dedicated to run this race.
You're telling everybody how to live their life.
How you gonna tell me how to live my life?
But you treat your fellow man like a thief in the night.
You treat your brother like a thief in the night.
Be a Christian, but you won't pay the price.
No, you won't be saying that you won't pay the price.
You're ducking and dodging like cheese eating mice.
Ducking and dodging.
Hide. You're straddling the fence and you can't make a choice.
What you gonna do?
If you don't get your soul right, you're gonna be lost.
You better get your life right.
You talk, 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 bragging on yourself.
Always bragging. Confess your sin.
All of your sin.
All of your sin. Yeah. I'm just talking to you, brother.
You say you forgive, but you can't forget.
Oh, you forgive, but you can't forget.
But the Lord God Almighty's not through with you yet.
See, God ain't finished working on you, brother. He ain't through with you yet.
When he fills your soul with the Holy Ghost.
See, when you do get the Holy Ghost.
And love a sinner who hates you the most.
And you gon' love the one that hates you the most.
You talk, 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 bragging on yourself.
See, you can't keep bragging about what you got and what you do.
But God's got cattle on a thousand fields. He don't need nothing.
perfection, bro.
You keep on talking, bragging on yourself,
yeah.
Talking about the things you do.
Sing it, Chester.
But God's got cattle on a thousand.
And he don't need nothing from you. You need me.
Oh, you sing your song with the melody.
Singing.
That'll get you in.
You think that'll get you in?
But it won't.
No.
All of your sins.
You better confess all of your sins.
But it won't.
I don't think they heard you, sister.
No, all of your sins.
You got to confess all of your sins.
But it won't.
Every last. Church, say amen.
Et voilà, c'était sûr, Mathilde Serrel. Vous avez dit que le morceau allait finir. Hein.
C'est alors... pas bien ça, Thomas Beau, à la régie.
Ouais. Le morceau est fini, on ouvre les micros, ça se passe comme ça,
tout
la radio.
Fait.
Mais vous, êtes
mais vous avez remarqué qu'il a du mal à finir quand même ce titre. Donc on...
Il a du mal à finir l'album.
Alors on
peut parler des 40 titres.
On peut parler de la blague du Gokazavetti, tout le monde s'en courant, c'est Charlie Oleg. Écoutez, quand même, souvenez-vous.
Qui joue avec Snoop.
Mais oui. Donc, vous voulez
que mais ce qui se passe, c'est qu'on nous dit, bon, il y a un nouveau Snoop Dogg qui arrive. Moi, le premier, je dis, oh, bah tiens, allons prendre des nouvelles de ce bon vieux Snoop. Programmons donc ce disque à la dispute. Et puis, tout d'un coup, le disque introuvable, à peu près.
On a passé la semaine à le chercher.
Sauf Thomas Beau, qui a été l'acheté dans chez un revendeur de rue, je crois.
Hier, ce matin.
Dans la paroisse évangélique du coin. Il est absolument... Bon, on peut le trouver sur les plateformes payantes, ou pas.
Et sur Vevo.
Et sur Vevo, donc. Mais tout l'album ?
Oui, tout l'album.
Tout l'album. Et donc, on se retrouve avec 40 morceaux de gospel, avec très peu de Snoop Dogg et... Sur 40 titres, 153 invités. Je résume, hein, Mathilde Serrel.
Oui, c'est ça. Il y a 32 titres.
Ah, 32, vous êtes sûr?
Oui, et en ce moment, on est en pleine alerte salmonelle. Et il faut dire que c'est un disque extrêmement cheesy. Il y a un gros
fromageux,
problème de...
je dirais, pour
c'est
traduire.
C'est un disque fromager, quoi. C'est vraiment l'expression cheesy aux États-Unis. Voilà, c'est ce truc qui dégouline un peu de bons sentiments, de niaiserie ou de clichés. Et c'est vrai que c'est... profondément cheesy. Après, moi, j'aime beaucoup effectivement Snoop pour le précédent Bush avec Pharrell Williams, qui était tout à fait intéressant. C'est drôle de voir.
C'était pas le buisson ardent, hein, c'était sur ouais. George Bush. Hein.
Oui, et puis c'était aussi le Bush de la ganja, parce que depuis que c'est légalisé aux États-Unis, Snoop est engagé aussi dans la vente de ganja. Ça fait partie de ses activités.
Il est un peu
de,
sur les très très grandes causes.
De vendeur industriel.
Et il donc, a arrêté la production du porno pour passer. À la
voilà.
Bah, et donc, ça ne rapporte plus du avec tout. Avec Bush, il n'en est pas très loin. Quand
et
même.
Donc, ça ressemble quand même à un énorme.
Bah oui.
une énorme arnaque de la part de Snoop. C'est-à-dire, comment on peut croire une seconde que tout d'un coup, c'est devenu un témoin de Jéhovah qui vient frapper titre après titre à la porte du bon auditeur pour lui transmettre la bonne parole. Alors, c'est vrai qu'il est quasiment absent. Moi, je trouve que sur les titres où il est présent,
il faut vraiment pas
on peut.
Pas s'endormir.
Alors,
faut pas,
attention, il y a 32 titres et c'est un piège. Voilà,
il y en a 32 secondes de Snoop.
Il doit y en avoir 6 hein, ouais. De Snoop.
Où il passe.
Au maximum, où il passe.
Il voit de la lumière.
Et il vient faire un peu son autobiographie comme ça, par petites touches. Hein, quand sa grand-mère lui disait qu'il fallait qu'il soit révérend, quand il avait peur d'aller en enfer. On ne sait pas trop... quoi penser de la sincérité de ce moment? Moi, j'ai l'impression que ça se clôture avec le dernier titre qui dit tout, en fait.
Généralement, oui, ça se clôture avec le dernier titre.
Words are few. Non, mais oui. Oh, merci Arnaud Laporte. C'était de la palissade, vous le pensez? C'est vrai qu'un titre de clôture, ça clôture bien les choses en général.
Ouais, c'est pas mal.
Enfin, il faut le dire. Non, mais words are few. Voilà, c'est-à-dire que finalement... Il l'avoue lui-même, il y avait peu de choses à dire et j'en ai peu dites dans
ce
disque.
C'est pas mal quand même. Hein.
Mais on peut dire malgré tout qu'il y a un travail, parce que je voudrais sauver ce plaisir que certains peuvent avoir à réécouter en fait une partie de la soul des années 90, d'aller peut-être à la racine de certains samples du rap, d'aller retrouver le lien, les ramifications qu'il peut y avoir entre le rhythm and blues, le gospel, le soul, le rap. Et puis aussi ce défi, il y avait les Kato Rock hier, aujourd'hui, il y a donc
les
Kato Rap. Et alors les Kato Rap sont des gens capables donc de freestyler sur le Seigneur à l'autotune. Et finalement, il a adapté tout à fait la production actuelle du rap, mais à des enjeux qui sont voilà, des textes qui se répètent sur l'amour du Seigneur. C'est bien l'amour et c'est mal la haine. Donc moi, je conseillerais ce disque le dimanche. C'est vraiment peut-être un disque de messe.
Bon. Philippe Azoury.
Bah ça tombe mal parce que moi je l'ai écouté dimanche. Je ne sais toujours pas à quoi sert ce disque. Je ne sais pas ce que l'Église a pu faire pour mériter un tel album. C'est hallucinant. Un moment où, question production, j'aime bien l'autotune. J'adore ça. Ça me fait des frissons partout. Là, j'en ai pas
un
entendu.
Un grand point de désaccord avec Hugo.
Oui, mais je sais qu'Hugo
déteste
l'autotune. Mais l'autotune, c'est la même pour tout le monde. Et bizarrement, il y a des gens qui s'en sortent très bien. C'est l'égalité, c'est le communisme de la musique, c'est l'autotune. La PNL s'en sort malheureusement bien, d'autres moins. Bon, oui. Là, l'autotune, j'en ai pas entendu. J'entends toujours cette espèce de Charlie Oleg, comme ça, noir, essayant des trucs. Relevant du pire voyage initiatique à New York où vous allez à Harlem et dimanche on vous met devant une chorale et on l'a tous eu, enfin je veux dire le petit battement de cœur en disant là là le gospel c'est une musique magnifique, c'est génial, on devrait écouter ça toute la journée. Sauf qu'évidemment on n'écoute pas ça toute la journée, que pour que ce soit à peu près possible le gospel, il faut que ce soit habité par un minimum enfin de révélations mystiques ou quoi que ce soit,
et ça peut devenir,
voilà, et ça peut devenir très beau.
Ah oui.
Bon, la soul musique nous a habitués. Enfin, genre, du révérend Al Green. Il y a eu des gens dans la techno, je pense notamment à Moody Man, vraiment au tournant des années 2000, qui était un peu dans sa cause black terrible. Moody Man est un grand maître de la house à Détroit, tellement vexé de voir des petits blancs, à commencer par des gens qui l'adulaient, comme les Daft Punk, faire de la techno. Il s'aventurait sur un territoire qui était mi-house techno, mi-gospel. Enfin, là, pour le coup, les blancs ne feront pas les poches, et c'était génial. Enfin, l'album de Moody Man, dans lequel il y a des moments de gospel sur 12 minutes, c'est une des plus belles choses que je connaisse à l'intérieur de la musique électronique. Bon, là, on n'en est pas là, c'est d'un opportunisme. Je pense que c'est un album tellement parodique qu'on est en train de parler d'une blague, quoi, et qu'on est obligé comme on est sur France Culture, on est obligé d'en parler sérieusement d'une mauvaise blague.
Ben on n'est pas obligé d'ailleurs.
Voilà.
On dit ce qu'on veut d'ailleurs.
Mais j'étais surpris, c'est que sur Discogs, donc du coup je suis un peu regardé pour voir, parce que je voulais essayer de localiser l'album, parce qu'on ne trouvait nulle part. Et je m'assois que Snoop fait des disques quasiment tous les 6 mois.
C'est ce que je voulais dire, quand on dit qu'il a vendu 40 millions d'albums, il en a vendu quoi, 6 ou 7 millions du premier, mais c'est le 18e ça.
Ouais, je crois.
C'est quand on dit on va prendre des nouvelles de lui, il en sort un ou deux par an.
40 millions,
oui, et quand on dit que c'est le roi de la blague, c'est ça qui est, c'est un peu le mystère et la fascination de Snoop, quoi, qui a été révélé donc par The Chronic, Dr. Dre, il a enchaîné avec Doggy Style, voilà, ce qui le distinguait, c'était non seulement son apparence, son attitude et ce flow si particulier.
Le,
quoi,
le mec était cool. Enfin, le mec était l'incarnation.
Avec ce
cool,
côté forcément, mais super, un peu vicelard, tordu. Il était plus connu pour ses films porno.
Producteur, parce qu'il faisait pas grand chose. Physiquement,
il chantait.
Oui, il a juste fait ça, et après, c'est ce physique hors norme par rapport à tout ce qu'il y avait à l'époque, par rapport au gros dur, il y a des choses physiques un peu inquiétantes de musaraigne.
Ou de Doberman.
Et ça fait quand même 20 ans, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on se dit, comme Dr. Dre ou ces gens comme ça, c'est quand même un homme d'affaires hallucinant qui arrive à juste faire tout et n'importe quoi depuis 20 ans. C'est devenu un espèce de bon client partout, un vague amuseur qui est le grand apôtre du... en tout cas, je le préférais en... Voilà, je vais faire mes jeux de mots à la Carsozon, en spliff le chien qu'en grenouille de bénitier. Mais c'est vrai qu'on l'a un peu perdu. Moi, je suis toujours étonné, je suis incapable. Je pense que les morceaux qu'on connaît de lui, c'est What's Your Name, c'est quasiment les premiers. Après, il y a quand même 18 albums où on ne sait pas. Et là-dessus, dire oui, j'aime bien les morceaux où il apparaît. C'est vrai qu'on ne sait pas l'intention là-dedans. Ce qui est un peu dommage, c'est que si tout à coup il se livrait et qu'il faisait des raps là-dessus, mélangés à tout ça, où il racontait tout à coup, il déroulait toute sa vie, ça m'intéresserait.
Il y a des petits bouts de ça, oui.
Sauf qu'il ne le fait pas.
Tout petit,
il se contente juste de dire Praise the Lord, et maintenant à toi, je passe le... Voilà, il passe le...
Puis derrière,
on ne sait pas ce qu'il a fait là-dedans. Est-ce qu'il a juste pris son téléphone ?
Les musiciens, ça joue, enfin, les requins de studio, les requins du gospel. Enfin,
oui, parce que c'est super, c'est assez... voilà, c'est bien produit, ça s'enchaîne. C'est vrai qu'on n'en peut plus si on n'est pas spécialement friand de ça. C'est juste 30 morceaux interminable, avec de temps en temps des petits bouts de Snoop au milieu qui a l'air, ouais, c'est ce qu'on dit, quoi, qui doit rigoler en allant à la banque, mais je sais pas si parce que ça va se vendre, c'est ça qui est étonnant.
Mais si on aime vraiment le gospel, je pense pas qu'on puisse supporter plus de 3
titres. Non, parce que ça fait un peu, on se demande tout le temps, c'est du lard ou du cochon, si c'est une blague ou pas, mais pire,
ça n'a
que
pas
les
qualités
pas
musicales du gospel.
Je pense pas que ce soit une blague dedans, pour lui, quoi. Je pense qu'il, voilà, on sait qu'il
peut-être
est quand
qu'il
même...
Peut-être qu'il est premier degré sur tout, Snoop, peut-être. Non.
Il y a une espèce d'opportunisme premier degré. Ouais,
il y a la chanteuse Kim Burrell qui est une star du gospel aux
États-Unis. Mais tous, les trois
quarts. Il a quand même choisi justement.
Du Gap Band qui met sur presque tous ses disques.
Le retour de Patti LaBelle qui chantait Voulez-vous coucher avec moi, qui elle aussi a décidé de se ranger un petit peu des mycènes. Mais en tout cas. C'est gênant, peut-être, Kim Burrell qui soit si premier degré, parce que c'était toute une affaire. En janvier, Kim Burrell, sa chanteuse de gospel, qui a également collaboré avec Pharrell Williams, elle a été invitée chez Ellen DeGeneres, le grand show aux États-Unis. Parallèlement, elle avait fait des déclarations quand même assez homophobes, ce qui fait qu'Ellen DeGeneres l'a pas reçue. Et elle avait notamment critiqué Obama pour avoir légalisé le mariage gay et augmenté les droits des homosexuels aux États-Unis. Donc, la blague premier degré avec Kim Burrell, au bout d'un moment, c'est presque aussi mauvais goût.
Est-ce qu'on a quelques avis divergents sur Twitter ou Facebook, Maurice Pinault ?
Un mot de Anton Atlien, invité prestigieux et cœur magnifique sur l'album de Snoop Dogg. I'm Ready, écrit sur un projet honnête qui a pour effet de mettre un coup de projecteur sur les artistes de la scène gospel, même si ces derniers n'ont pas forcément besoin de la lumière du chien de Long Beach pour briller.
Ouais.
Long Beach ?
Vous avez une blague peut-être, Olivier de Casavetti. Non,
on va le. Celle-là suffit.
Non.
Ça s'appelle la grosse dispute. C'est un mélange des grosses têtes.
C'est un croisement.
C'est bien que
on tente un truc.
Vous savez bien que les grosses têtes c'était déjà pris, non? Campagne
je
de publicité. Oui, de France
on
Culture.
On est corporel.
Bon, on va s'arrêter là pour le massacre ou la blague ou le premier degré, parce qu'on est vraiment interdit devant cette Bible de l'amour de Snoop Dogg. C'est quand même toujours chez Sony, même si c'est un sous-label, c'est quand même Sony qui est toujours éditeur de.
Oui, mais apparemment en France, personne n'est au courant qu'il le sorte.
Maintenant, il y a un peu plus de gens grâce à cette émission.
Il nous fait regretter Snoop Lion, c'est ça, avec ce.
Non, presque. Dans 6 mois, il y a un nouveau disque.
Avec Snoop Dogg.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Arbordons de nouveaux territoires. Le troisième sujet de cette dispute musique, c'est une exposition Al Musica sous-titrée Voix et musique du monde arabe. C'est à la Philharmonie de Paris. Ça va durer jusqu'au 19 août. Donc beaucoup de gens pourront sans doute aller voir cette exposition, parisiens, franciliens ou en vacances. Bon, depuis la période pré-islamique jusqu'aux musiques qui ont accompagné les printemps arabes, en passant par les appels à la prière, la musique de cour, les musiques actuelles aussi, ou les comédies musicales égyptiennes, donc une exposition de la Philharmonie qui voit large, pour tracer un chemin historique, forcément mélodique, pour montrer le caractère central de la musique au sein des sociétés arabes. La commissaire en est Véronique Rieffel, la scénographie est signée Nathalie Crassé.
Allah, Allah, غير ما بالوشوش.
Voilà un extrait du projet Love and Revenge mené par Reyes Beck, présent dans cette expo de la Philharmonie Al Mosaica, et on y suit les pas de Philippe Azoury.
Oui. Ton avis un tout petit peu partagé par l'expo. En elle-même, elle me réjouit. Enfin, déjà, son idée même me réjouit. J'aime beaucoup ça. La question de la musique dans la société musulmane, c'est un sujet brûlant, sachant que effectivement une partie de la charia et toute une partie de l'islam radical djihadiste la proscrit désormais totalement, avec une interprétation complètement fausse du Coran. Je veux dire, voilà, disant que la musique, comme le sport d'ailleurs, détournerait toute personne du simple objectif religieux. Al Mosaica, enfin voilà, le mérite de replacer ça dans un contexte large, très très large, monde pré-islamique jusqu'à aujourd'hui, en arrivant à articuler très très bien, enfin je veux dire, voilà, ce qu'est la dualité de la musique à l'intérieur du monde arabe, c'est-à-dire d'une part une voie directe pour parler à Dieu, ou pour atteindre Dieu. C'est une musique, le chant est souvent mystique, mais il est aussi lié à l'extase, c'est-à-dire l'extase, la joie des sens, et tout ce qui peut être une partie dépravée. Il y a une partie très très belle à l'intérieur de l'expo, qui est celle de la dynastie des Oumeyyades, c'est 7e siècle. Il faut arriver en plus à mettre en scène ça pour une scénographe, c'est quand même pas facile. Là, je trouve qu'ils y sont vraiment arrivés très très fort. C'est-à-dire vraiment, on voit, et en plus on voit les déplacements, c'est-à-dire on voit comment on part de l'Arabie Saoudite, on descend jusqu'à Damas, puis ensuite la dynastie se déplace jusqu'à Bagdad, et de Bagdad arrive en Andalousie, en croise en même temps les musiques perses, et comment tout ça s'est constitué au 7e siècle, réellement ce qui est encore aujourd'hui le fondement de la musique arabe. Voilà. Là-dessus, sur l'importance de l'expo, sur la façon dont elle arrive quand même à créer certaines salles, jusqu'aux salles de l'exil, sur la musique, sur le chant de l'exil, qui sont parmi les plus belles, avec la reconstitution d'un café à Barbès. Mmh. Ils arrivent à faire des choses incroyables. Et il y a un ratage, mais hallucinant, enfin monumental, qui est cette part qui était finalement la plus facile en plus, sur le papier, qui est la partie consacrée, disons, au cabaret aux années 50, 35, 40, 50, 60. On ne sait pour quelle raison absolument mystérieuse, ils ont absolument réduit ça au Caire. C'est un peu plus large que ça. Donc il y a une, alors où j'ai raté une salle, ce qui m'arrive souvent, moi, je suis un peu distrait comme garçon, mais alors, soit j'ai raté une salle, soit le Liban n'a pas produit de musique durant toute cette histoire. C'est quand même dément. Enfin, je proche pour même pour ma paroisse, certes, mais bon, quand même Fayrouz, Asmahan, c'est pas rien. Ils n'y sont pas. Alors Asmahan est là dans la salle, justement dans la salle qu'on vient d'entendre, que Mathilde aime beaucoup.
Et moi aussi.
Et vous aussi, Arnaud, qui est la salle d'un ami à moi, en plus Reyes Beck, rappeur libanais, remixant notamment un morceau d'Asmahan. Le problème, c'est que c'est le seul endroit où on entend Asmahan, qui a la plus belle voix, qui était syrienne, et qui est là, vraiment, vraiment, la plus belle voix et le plus beau destin, le destin le plus incroyable, sans doute, une sorte de Mata Hari syrienne. Mariée quatre fois, morte à 24 ans, mariée quatre fois, dont deux fois avec le même mari. Enfin, des choses incroyables à raconter qui sont sublimes et qu'il faudra aller chercher pour qui s'y intéresse dans le livre de la Miaziad, et qui est juste magnifique, Aux nuits, aux mes yeux, qui était sorti chez POL et qui est disponible quand même partout à peu près à l'intérieur de l'expo, dans la librairie qui suit l'expo. Donc pourquoi ce qui est là commence dans les années 30, surtout que, enfin, on sait aujourd'hui, il y a un travail qui est fait, il y a une fondation qui s'appelle Amar. Vous irez voir aussi sur Internet, ils sortent des coffrets, ils digitalisent des 78 tours, ils présentent des chanteurs. L'histoire des cabarets commence dans le monde arabe à partir de 1905-1910. On a des personnages qui sont délirants, quelqu'un dont j'ai oublié le nom et là je ne l'ai pas noté, qui était à la fois bisexuel, héroïnomane, qui a fait 78 tours uniquement pour payer la drogue et les voyages, et se faisait entretenir par qui il voulait, choisissait ses amants dans ça. Pourquoi ces choses-là ne sont pas dans l'expo? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il y a un trou d'un coup de deux siècles, on se retrouve dans les années 50 au Caire, vite fait, mal fait, et on se retrouve après à Barbès, et c'est très beau.
Hugo Cassavetti, l'exposition Al Mosaica.
J'écoute Philippe et je trouve que moi je suis très partagé aussi, parce que l'intention on est là, mais c'est très cruel quoi. C'est un pari impossible cette expo. En fait on est en train de demander à faire 15 siècles d'histoire, des centaines d'artistes
avec des ramifications dans des pays
incroyables, en gros, avec, dans le même espace qui a été consacré il y a quelques mois, on va dire, à Barbara
ou à la Jamaïque.
Oui, mais la Jamaïque c'était déjà limite pour moi. mais et encore la Jamaïque, c'est beaucoup plus petit.
C'était sur un temps.
C'était le reggae.
Il y avait un peu de temps.
Et je trouve que c'est intéressant. Et en écoutant Philippe, pourquoi je dis que c'est intéressant, c'est qu'on n'arrive pas là, en l'écoutant, de savoir, je pense que tout ce qu'il dit, c'est des choses. Il est parti de ce qu'il savait avant.
Oui, oui.
Et ça pose, c'est vraiment le cas de La Fée et la Poule, cette expo, parce que le catalogue est magnifique. Moi, je suis allé le voir donc, il y a quelques jours. Je me balade. En plus, elle a une vocation. La commissaire le dit. C'est surtout pas de pas. Ça s'adresse pas aux musicologues. C'est dit et ça se sent. Alors parfois c'est super la scénographie de Nathalie Crasté, mais que ça s'adresse beaucoup aux enfants et aux familles. Alors c'est une équation.
Comme
je pense qu'ils cherchent encore à la Philharmonie, mais de plus en plus parce que je pense que les expos.
Ce qui est pas une mauvaise chose.
On l'a
dans
déjà
l'absolu,
dit ici,
hein,
c'est que la plupart ne marchent pas très bien. Ils cherchent toujours désespérément. Mais là dedans, on ne sait plus très bien ni à qui ça s'adresse. Moi, je suis passé là-dedans, on a du mal à s'arrêter et à retenir vraiment les infos. Alors si on se dit oui mais en sortant j'ai envie d'en savoir plus, ce qui me frustre c'est qu'après en lisant des choses, je me dis ah je comprends mieux, j'ai envie d'y retourner.
Non mais c'est
donc,
parce que les cartels sont vraiment super bien faits.
Oui, oui.
Les cartels sont didactiques, sont très beaux. Ben, oui,
surtout
vraiment,
au début,
très clair,
parce qu'au début ça commence par quelque chose de très didactique qui raconte et c'est passionnant.
Et c'est passionnant parce que c'est...
D'où ça vient, le justement, voilà,
sur ce
malentendu dont on est nourri que l'islam est contre la musique et tout ça, c'est beaucoup plus complexe puisque la musique vient de tous ces chants religieux avec, c'est drôle parce qu'on vient de parler de Snoop qui est tout l'inverse, c'est comment ramener le rap à l'église.
Oui,
non mais si je pense là en parlant, c'est drôle quand même. Et là c'est l'inverse, c'est comment on est parti de quelque chose d'extrêmement spirituel qui était à vocation uniquement de rentrer en contact avec Dieu et d'éliminer tout pour arriver à cette musique qui occupe tout, parce que quand on se balade là-dedans, on connaît tout ça de façon diffuse ou non.
Mais ça a toujours été en parallèle. En plus, ça
mais
toujours,
on se balade là-dedans. C'est très coloré. Voilà, il y a la salle, je ne sais plus où les gens tournent autour avec le chant des oiseaux.
Ouais,
mais
beau,
tout de suite, il y a un côté un peu parcours pour les enfants, ce qui est sûrement très bien. On est des gens essaient des fesses, se font des selfies et tout, qu'on est un peu perdu.
En même temps, il y a des pièces incroyables. Il y a des Corans du XIVe siècle.
Mais il y a beaucoup de choses.
Il y a très belles choses.
Mais on est très discret.
Des sitars qui sont.
Même les cornemuses.
Je voulais juste dire, j'avais l'impression qu'on traverse. Je pense que c'est une intention. Et ça, c'est super. D'empire des sens. Sauf que, en ressortant, on en cherche un peu le sens. Alors, il faut aller lire le catalogue ou autre chose pour comprendre et peut-être y retourner.
Mathilde Serret.
Alors rapidement, il y a peut-être un effet vice-versa, vous voyez, ce dessin animé de Pixar, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs entrées, il y a plusieurs lectures en fait. Il y a une lecture pour les enfants, évidemment, faire de la calligraphie avec un calame, s'amuser dans la scénographie de Nathalie Crasté, qui d'ailleurs réussit très bien cette idée de post-orientalisme qui est voulue par la commissaire d'Expo, avec une façon très graphique d'aborder les choses et pas du tout folklorique. Notamment, on se rend compte, peut-être, ça me fait penser à ce mouvement américain qui s'appelle le More in Common, c'est-à-dire le plus en commun.
Ça suffit avec vos américanismes.
Non mais je le traduis, mais on a le sentiment que la construction de la culture arabe et donc religieuse et non religieuse est tout à fait proche d'autres civilisations et qu'il y a énormément de troncs communs au départ. Et c'est ça qui est dit par la scénographie, notamment la forme octogonale et hexagonale aussi, qui doit être une des formes les plus répandues. Et au 8e siècle, effectivement, les honnêtes hommes apprennent la musique et ça fait partie à Bagdad de la vie d'un honnête homme. Donc ça dissipe aussi, comme l'a dit Hugo, un certain nombre de malentendus. Mais il reste un malentendu, cette exposition, qui, à mon avis, c'est une très bonne exposition d'art contemporain. Moi, je l'ai vu comme ça.
Oui, des choses très belles.
Vraiment.
Les pièces de Youssef Nabil, photographiant Natacha Atlas,
les
cassettes coraniques qui sont exposées.
Il y a la Mystic Dance de Najia Medavi qui s'est inspirée du mouvement des derviches tourneurs pour le reproduire. Moi, je trouve qu'il y a cinq grandes pièces comme ça qui sont vraiment très belles. Il y a cette pièce Love and Revenge que j'ai beaucoup aimée, donc mélange vidéaste et musique La Mirza. Il y a aussi Youssef Nabil, donc Natacha Sleeping, excellent photographe.
La photo est folle.
Donc, je trouve que l'œuvre qui est proposée, contemporaine, est aussi, à mon avis, rare. Et c'est peut-être là-dessus qu'il aurait fallu mettre l'accent, notamment sur la dernière salle My Rockstars du londonien Hassan Hajjaj. Il est absolument génial, ce type. Il a pris toutes les grandes stars de la musique arabe. On va passer par Natacha Atlas, mais aussi Indy Zara, mais aussi Rachida. Vous avez les récents comme Riz Idros, rappeur que je découvre, et ils sont mis en scène avec cette espèce de choc des cultures et de une sorte presque comme on a eu, vous avez l'afrofuturisme. Je trouve qu'il y a une sorte de futurisme arabe à la fin de l'exposition, et notamment vraiment par la sélection des plasticiens que je trouve excellente. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il faut le voir.
On est tous partagés, je crois, ici. Je vous redonne la parole, Philippe Azoury, parce qu'on a tous, je trouve, l'initiative formidable, sauf que on peut pas faire des expositions dans cet espace-là. Enfin, il fallait vraiment resserrer. Ouais, on peut faire 10 expositions avec la matière qui est là. Et moi, ma crainte, c'est qu'on se dise, bon, bah, ça y est, c'est fait. Musique du monde arabe.
C'est la première fois,
on la refera dans 15 ans parce que là, bon, c'est le danger. Parce qu'à la fois, le travail est formidable et le catalogue que signe également la commissaire Véronique Rieffel est très bien. La scéno est formidable. La pédagogie est présente. Enfin, je pense que beaucoup de gens peuvent y trouver leur compte. Mais on fait que zapper. On survole et c'est extrêmement frustrant si on développe un intérêt, me semble-t-il.
Hugo, oui, parce que parler de zapper pour écouter, c'est ce système à la fois qui est super, mais avec les casques, d'aller brancher des casques. Ouais. Et c'est saoulant au bout d'un moment de faire ça. Quoi,
moi j'aime bien.
On a envie d'être possédé.
On a quand même le Scopitone là, qui sont extraordinaires dans le café de Barbès. Ils sont absolument magnifiques. Moi j'en avais quasiment pas vu.
Et l'interview de Bruno Cocatrix, le showroom qu'elle souhaitait venir chanter à l'Olympia, où je croyais qu'on avait une danseuse du ventre. Il est drôle. Il reconnaît qu'il passe complètement à côté. Elle lui dit, je vais faire 3 morceaux. Il dit, ça va être un petit peu court.
Il
y a une heure par titre. Et je trouve ça génial de revoir cette archive de Cocatrix, ça vaut le coup.
Un dernier mot, Philippe Azoury.
Non, c'est vrai, quand Mathilde disait, ce regard contemporain, c'est chez des artistes qui sont dans le monde arabe très très jeunes, enfin, qui ont souvent entre 25 et 45 ans. C'est quelque chose, quand on s'est un peu baladé dans le monde arabe, la musique populaire arabe, celle des années 10, celle des années 50, celle des années 60, est encore très très vivante. Elle est vraiment jouée, elle est appréciée, c'est une véritable culture. On est au-delà de justement d'une bande de branchés essayant de chanter Michel Seguin. Enfin, c'est vraiment pas ça.
C'est pour ça qu'elle est revitalisée, notamment par Hayes Beck.
C'est
un exemple.
Asmahan n'est pas montré en elle-même.
Non, j'entends bien. Ça n'empêche pas qu'on travaille.
Effectivement,
c'est formidable.
Il manque Beyrouth, qui a quand même produit les plus beaux labels de cette époque-là.
On est d'accord.
Mais il y a à la librairie. La librairie est parfois mieux. Enfin, elle comble les trous. Il y a un livre de Gilbert Rouget qui s'appelle Musique étrange chez les Arabes, qui était sorti chez Alia, qui est un texte magnifique sur cette transe-là et sur l'ambiguïté de cette transe-là. C'est un livre que je conseille aux lecteurs de France Culture qui aiment les livres.
Bah oui, mais d'autres, on est généreux.
Oui,
bon, Al-Musica, voix et musique du monde arabe jusqu'au 19 août à la Philharmonie de Paris, et puis le catalogue de l'exposition, je le rappelle, signé Véronique Rieffel, pour plus qu'utile pour compléter la visite et pour préparer la visite suivante. Catalogue publié par la Philharmonie et les éditions La Découverte. Et nous avons été rejoints sur une danse de Mathilde Serrel par...
De Philippe Azoury.
Ah oui, mais je vous regardais, vous, Mathilde, c'est pour ça.
Pour très très bien adapté.
Rejoint par Camille André, qui ne va pas danser, mais nous faire gagner des choses dans le jeu de la dispute. D'abord, Camille, un retour sur le jeu d'hier soir.
Eh bien, grâce à quel geste le public reconnaît-il que Cobert joue le personnage de sa femme Clémence? Et c'est lorsque l'acteur pose l'un de ses pouces sur son menton.
L'un de ses pouces, l'un de ses nombreux pouces de Philippe Cobert. On fait gagner ce soir des DVD Titi Cutfries de Frédéric Wiseman, distribué par Blackout. Quelle est la question?
Eh bien, Titi Cutfries est un documentaire montrant les conditions de détention à l'hôpital psychiatrique et pénitentiaire de Bridgewater. Lors de sa sortie en 67 aux États-Unis, quelle sanction fut prise à l'encontre du film?
Votre réponse avec vos coordonnées postales, tout ça, envoyé à auditeurfcr@radiofrance.com. Toutes les informations à retrouver sur le site franceculture.fr, à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez réécouter cette émission plusieurs fois et bien sûr vous abonner au podcast. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain à 19h qui sera consacrée aux arts plastiques. Nous serons en compagnie de Corinne Rondeau, Sandra Adam-Courallet et Florian Guettet à notre affiche Nymphéa, l'abstraction américaine et le dernier Monet. C'est au musée de l'Orangerie. Sudhop Gupta, Ada, rendez-vous. C'est à la Monnaie de Paris. Enfin, Lutz Bacher, Silence of the Sea, à Lafayette, anticipation.